Que ton nom est magnifique. Psaume 8, un psaume d'adoration. Par Eddie Chloé. Ce psaume de David est un hymne de louange, l'un des plus beaux de tous les psaumes. Les différents types d'hymnes dans les psaumes comportent à peu près la même structure. Ils commencent avec un appel à l'adoration de l'Éternel, ils poursuivent par une liste des raisons de louer Dieu, et ils se terminent souvent par une réitération de l'appel à l'adoration. Cet hymne suit précisément ce modèle. Entre les deux appels à l'adoration, l'auteur développe les deux raisons données pour louer Dieu. Les hymnes dans les psaumes se caractérisent par leur louange exubérante, du début à la fin. La pensée centrale de ce psaume est donc l'adoration adressée à l'Éternel. Ce thème se distingue dès la première ligne, « Éternel, notre Dieu. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Guillemets. Il s'agit sûrement d'une méditation de David qui a lieu par une nuit claire où il contemple le ciel ouvert. Aucune mention n'est faite du soleil. Il voit la belle étendue des étoiles scintillantes, trop nombreuses pour être comptées, avec parmi elles la lune dans sa gloire particulière. Ainsi, réfléchissant sur ces choses, David est pris d'un sentiment d'adoration, car la merveille de l'univers lui annonce la vérité de l'Éternel. Il est inondé par la certitude que Dieu doit être révéré et adoré. La référence au nom de Dieu est typique de son usage dans l'Ancien Testament. Pour nous, un nom ne signifie rien d'autre que le vocable par lequel on désigne une personne. Mais pour les Hébreux, le nom portait un sens bien plus profond et symbolique. Lorsque David annonce que le nom de l'Éternel est magnifique dans toute la terre, il dit que la sagesse, la puissance et la bonté de Dieu sont visibles dans toute la création. Le nom de Dieu est la désignation de tous ses attributs. On pourrait traduire ainsi la pensée de David, « Ô Éternel, combien ta création manifeste ta gloire !» Point. Poursuivant son adoration, le psalmiste décrit deux raisons pour louer Dieu. « Et à cause de sa création, vs 2 à 3, toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. » Par la bouche des enfants et des nourrissons tu as fondé ta force, vs 2b3. La première raison donnée, la glorieuse création de Dieu, nous fait penser à ces célèbres paroles du philosophe Immanuel Kant, « Deux choses remplissent mon esprit d'un émerveillement et d'une révérence toujours renouvelée, le ciel étoilé au-dessus de moi, et la loi morale au-dedans de moi. » 2. David pense à l'infiniment grand et à l'infiniment petit, à ce qui est puissant et à ce qui est frêle. Il mentionne en premier les cieux magnifiques, principale révélation naturelle de Dieu. Il dit que la gloire, la grandeur et la majesté de l'Éternel se déploient à travers les cieux comme la peinture multicolore qui couvre chaque centimètre d'un chef-d'œuvre. David appuie sa déclaration par l'exemple de ce qui est petit, les enfants et les nourrissons. Jésus cite cette expression en Matthieu 21.16. Les enfants, expression la plus faible de l'être humain, témoignent de l'existence et du caractère de Dieu. Ils déclarent ses louanges par leur existence même, par leurs instincts et leurs aptitudes à se développer, à découvrir et à aimer, par leur beauté, par leur capacité à apprendre et leur désir de croire. Tous ceux qui s'opposent à Dieu devraient contempler sa grandeur reflétée chez l'enfant et se joindre aux louanges adressées à l'Éternel. 2. À cause de son amour pour l'homme, vs 4 à 9. La deuxième raison donnée pour louer Dieu est sa gloire qui rayonne dans la dignité de l'homme. Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Vs 4 à 5. Lorsqu'il compare les cieux, les étoiles diamantées, et la lune parée d'une lumière d'or, à la considération spéciale de Dieu pour l'homme, David se pose une question importante, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu le considère à ce point ? Point. En présence de l'étendue et de la splendeur des cieux, David cède à un sentiment de l'insignifiance de l'homme. Il se demande tout comment Dieu peut même le remarquer, encore moins se soucier de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, vs 6 à 7. David est frappé par une merveille encore plus grande, non seulement Dieu se soucie-t-il de l'homme, mais il lui a donné une autorité et une splendeur comparables aux siennes. Dieu, maître souverain de l'homme et de toutes choses, a fait de l'homme, chose étonnante, le maître de sa création. Il l'a couronné roi, lui accordant le gouvernement de tout son territoire et la souveraineté sur tout être vivant, ceci constitue, de la part de Dieu, une gloire et un honneur sans pareil. L'homme, qui n'est qu'un grain de poussière dans l'univers, doit être le seigneur de la terre. Dieu lui a dit de dominer sur les animaux des champs, les créatures sauvages, les oiseaux du ciel, et tout ce qui se trouve dans les profondeurs de la mer, Gn 1.26, 28. Il ne s'agit pas là de classification scientifique, mais d'un résumé général de l'étendue de cette domination. Les découvertes scientifiques ont renforcé le règne de l'homme par l'utilisation des lois naturelles établies par Dieu. Ce règne amplifié correspond tout à fait à l'autorité octroyée par Dieu au commencement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux applique à Jésus la phrase « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu » et 2.7.9, expliquant que Jésus est devenu ainsi l'un d'entre nous, un homme physique, afin de subir la mort. La grande vérité de ce psaume, celle qui devrait faire élever la voix de chaque être humain en louange à Dieu, est le fait que pour Dieu, l'homme est plus important que la matière ou que l'espace. La véritable dignité de l'homme est enseignée plus clairement dans ce psaume que partout ailleurs dans l'Écriture. Conclusion. Ce psaume ne décrit pas l'importance de l'homme, mais la gloire de Dieu telle qu'elle se voit dans la création et dans la couronne placée par l'Éternel sur la tête de l'homme. Après avoir réfléchi à ces deux vérités, nous ne pouvons qu'éclater en adoration. Car la création démontre la puissance du Créateur, et la couronne reflète sa grâce. Et les deux prouvent sa sagesse. Éternel, notre Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. V10. David termine comme il a commencé, par une déclaration d'émerveillement révérencieux. On ne peut améliorer cette formule. Notre considération du monde créé et du souci de Dieu pour l'homme ne peuvent embellir ce psaume, cela ne peut que nous faire répéter cette merveilleuse phrase avec une compréhension et une émotion encore plus profondes. Note 1. Le commentateur W.T. Purkiset décrit ainsi l'entête de ce psaume, « Ce psaume est adressé au chef de cœur, sur la guittite. » Le terme guittite se trouve également dans les entêtes des psaumes 81 et 84. Sa signification est inconnue. Il s'agit d'un adjectif dérivé du gath, indiquant soit quelque accompagnement sur un instrument originaire de la ville philistine de Gath, soit une mélodie gathienne associée à la marche de la garde des Gathiens, 2 S 15:18. Puisque le mot gath signifie également pressoir en hébreu, il est possible qu'il s'agisse d'un chant de vendange, W.T. Purkiset, Psalme, In Bacon Bible Commentary, Vol 3, Jutruk Song of Solomon, Ed. AFRP, W. M. Greatouz, Ralph et Arl, et W.T. Purkiset, Kansas City, Mo, Beacon E-Press, 1967, 158. 2. Immanuel Kant, Critique of Practical Reason, and Other Writing in Moral Philosophy, Trans. Louis Whitebeck, Chicago, University of Chicago Press, 1949, 258.